allons faire venir et pour ne pas vous retarder, nous allons peut-être commencer tout de même. Et puis il prendra en route, il a l'habitude de toute façon de prendre en route ce type de table ronde. Voilà. Donc avec moi pour parler du conte et de sa transmission par ordre d'apparition sur vos écrans, Chantal Robillard. Robillard, est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Christelle Comprini, Fabien Fernandez et Pierre Dubois. Le fantôme de Pierre Dubois qui sera là en chair et en os, je l'espère très vite. Quelqu'un est allé le chercher? Non, non. Voilà. Alors, transmettre le conte, transmettre les contes, les adapter, les transformer. Vous avez tous, de près ou de loin, participé à cette transmission, à ces adaptations, à cette transformation. Et la première question que je vais vous poser, messieurs et dames, c'est pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec le conte? Parce que transmettre, c'est d'abord recevoir. Donc, je vais commencer par toi, Chantal.
Oui, merci. Voilà, on m'entend?
Oui,
je suis pas sûre.
D'abord, est-ce qu'il y a une première rencontre avec le conte?
Oui.
Et quelle est cette...
Alors, le conte, non, des contes, oui. Moi, on m'a lu toute petite, mais vraiment toute, toute petite, les contes de Perrault. Enfin, je ne savais pas encore lire, évidemment, quand j'étais... j'avais 3-4 ans, et j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est du conte moderne, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je suis quasiment née avec, et il m'a porté toute ma vie, et d'ailleurs du coup j'ai écrit sur lui tout récemment dans ce livre, La Rencontre aux Imaginaires en Aubrac. Mais j'ai vraiment commencé Perrault et Saint-Exupéry, et puis après Babar, qui pour moi est aussi du conte, les premiers Babar.
Et cette rencontre a été particulière, elle a été, on va en reparler après, mais elle a eu une influence, elle a été
évidemment. Je pense que les histoires que fait de Perrault, l'histoire du petit chaperon rouge mangé par le loup, de fées qui rejettent la mauvaise fille et qui garde la bonne, enfin qui donne à la bonne un bon don et un mauvais don à la mauvaise fille, ça me frappait beaucoup quand même. Je voulais être parfaite, je voulais être comme c'est.
C'est réussi, en plus.
J'en ai pas rendu compte.
Ah, le voilà. Ça sort là que tu arrives. Hein? Toujours.
Personne n'est parfait, la preuve.
Attends qu'il s'installe. Pour que...
Donc voilà, ça a été d'abord Perrault, ensuite Saint-Exupéry, et puis après les autres, hein, Grimm, Andersen, etc. Et c'est vraiment des contes que je me suis approprié, dont je me suis approprié la langue. C'est pour ça que Perrault, je le parle dans le texte quasiment, quand je veux, enfin pas tous les jours au repas, parce que le phrasé, le son, voilà, la mélodie des phrases de Perrault, la plus jolie qu'on puisse y voir, plus personne ne comprend ce que ça veut dire d'ailleurs, le passé surcomposé, mais si on l'a entendu tout petit, ça revient. Ça revient. Du coup, j'étais très bonne en dictée.
Avec la poésie des mots.
La poésie des mots. Mais parce que dès qu'il y avait du passé simple, du passé surcomposé, des plus que parfaits, des imparfaits, du subjonctif, ben moi, je les connaissais tous par cœur depuis Perrault. Voilà.
Merci, Charles. Cristal.
Bon, je pense que je vais faire rire tout le monde. On va commencer par le classique. Ma mère m'a effectivement lu des contes. Je pense que c'était Grimm et Perrault. Je ne peux pas dire que j'en ai gardé vraiment la mémoire. Je devais être vraiment très petite. Par contre, ma première rencontre marquante et qui a eu une influence, c'était Raconte-moi des histoires. C'est pour ça que je dis, ça m'a beaucoup fait rire. Mais mine de rien, ça fait partie aussi de la transmission. Et puis, je pense, bon, toute ma génération, grosso modo, est tombée dedans. Mais on n'y a pas tous trouvé les mêmes choses. Parce que les contes étaient variés. Il y avait des choses qui avaient été inventées pour la série.
Pierre se remettre. Et donc, Fabien, même punition, même question. Ta première rencontre. Non, non, Fabien. Oui, oui. Parce que Pierre est à part, on peut dire avec lui après. Si, si. La première rencontre avec le pont. Vous l'entendez bien?
Oui, je parle massivement à propos d'entendre ça. Dans ma première rencontre, c'est des livres qui sortaient de, enfin, je ne sais pas, de chez mes grands-parents, peut-être, des vieux livres assez fins de contes russes, en fait. Donc, c'est ça, ma première rencontre, des contes russes assez. C'était des livrets presque assez grands, assez fins, et évidemment illustrés. Et l'image participe grandement à la transmission, je pense. Et voilà, bon, alors maintenant je suis illustrateur, donc c'est peut-être pour ça aussi.
Illustré par Billy Bean, je pense. Hein.
Je sais, je sais, moi,
il y avait du 20e siècle.
Ouais, il y a un regard nouveau.
C'est ça,
ouais.
C'est Billy Bean.
Ouais. Ouais.
Pierre, donc la question qui était posée, puisqu'avant de transmettre le conte, eh bien, on le reçoit. Ta première rencontre avec le conte. Est-ce que tu...
Il n'y en a pas eu beaucoup, et là, justement, c'est qu'on ne me racontait pas l'histoire, mes parents ne me racontaient pas l'histoire, mon père n'aimait pas ça, et donc, le premier, c'était les seuls, c'était plutôt des comptines, des trucs du côté de ma mère, qui était belge, donc c'était Halleux est arrivé, la pisse à pâte au feu, il s'est en sauvé. Et c'était rien. Et en même temps, j'imaginais ce loup, donc Halleux est arrivé, la pisse à pâte au feu. Et malgré tout, si tu veux, ça ouvrait quelque chose, ça me faisait. Et ben, quoi, le premier petit livre que j'ai eu, qui était. C'est assez marrant, tu vois, c'est toujours pareil, hein, les hasards. Le premier petit livre que j'ai eu de compte, c'était.
Chaboté.
Non.
Ah, le loup et le chien.
Non. Je ne sais plus. C'est le musicien de la ville de
Bois.
Tiens, c'est le jeu de son truc, je le vois, c'est le musicien de la ville de Bois. C'est le.
Formidable.
Ouais, c'est le musicien de la ville de Bois, avec l'histoire de l'âme, du coq, et qui rentre dans la maison des brigands. Et alors je le lisais, j'avais qu'un livre pratiquement, je le lisais, je le regardais, enfin je le lisais pas, je regardais les images, c'était le premier contact avec le conte. Oui.
Alors après ce premier contact avec le conte qui vous marque, plus ou moins d'ailleurs, le temps passe, et à un moment donné, vous allez vous-même vous réemparer du conte pour travailler dessus, pour l'adapter, pour le transformer, pour le dessiner, pour le publier, pour le publier, pour le raconter. Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fermé les rideaux? C'est quelqu'un a appuyé, parce qu'on va être un petit peu dans le sombre du coup. Continuons, c'est pas grave, il va se passer des choses là, c'est curieux. Donc, une autre histoire commence, est-ce que vous pouvez me la raconter dans le conte, cette histoire? Que je reprenne ce que j'ai. Je reprends le fil. Vous avez donc cette première rencontre avec le conte qui vous marque plus ou moins, ou pas d'ailleurs, et puis le temps passe. Et puis à un moment donné, vous-même, vous allez vous retrouver. Transmetteur de contes, à travailler sur le conte, à dessiner sur le conte, à détourner le conte, à publier le conte, à raconter le conte, etc. Cette histoire-là qui va vous mettre dans cette position de transmetteur, est-ce que vous pouvez la raconter?
Alors moi je peux vous raconter d'abord avant de moi-même réécrire des contes. J'ai fait très longtemps, puisque je suis bibliothécaire, personne n'est pas parfait, complètement. N'est-ce pas Marie-Charlotte, j'ai très longtemps fait ce qu'on appelle l'heure du conte. Donc en bibliothèque je
sont des micro-directionnels, il faut vraiment parler dessus parce que sinon, on ne t'entend pas,
je
t'en prie,
c'est moi. Donc, je faisais l'heure du compte dans la bibliothèque où j'étais. Ça va, on entend mieux. Si je m'approche trop, je vais cracher dedans.
Ouais.
Et donc, voilà, mon contact avec le compte est revenu par ce biais-là. Et ensuite, j'ai eu envie d'écrire une histoire de compte. Alors, c'est très précisément daté, si je puis dire. J'ai entendu une fois un écrivain qui avait repris le conte de l'histoire de l'âne et des trois vœux. C'était Jacques Jouet qui a écrit trois fois trois vœux, qui était d'abord une nouvelle, puis qui est devenue une pièce de théâtre qui joue de temps en temps, qui fait jouer de temps en temps. Et dans ce conte, lui avait repris le conte initial où, vous savez, l'âne fait des vœux et est obligé de tout refaire à la fin. Lui, il a introduit ceci, et c'est cet élément-là qui m'a marqué ma vie. L'âne, on lui demande de faire trois vœux, alors il fait un premier complètement idiot, que j'ai un picotin d'avoine, un second, que j'ai un seau d'eau, etc. Et le personnage, qui soit le diable, soit Dieu, soit un autre personnage thaumaturge, qui lui donne ce don, dit bon, allez vite, le troisième, on expédie, bon, et que je fasse trois autres vœux. Et à partir de là, il recommence une deuxième série de deux vœux complètement idiots, mais un petit peu mieux quand même, et puis comme troisième vœu, que je refasse trois autres vœux. Et à la fin, il se retrouve maître du monde, etc., etc., jusqu'à ce qu'il arrive sur un os, si je puis dire, un os pour un âne, bon, qui est que il voit passer une belle jeune fille dans le paysage, et il dit comme deuxième vœu qu'une telle, je ne me rappelle plus le prénom de la jeune fille, varie d'une version à l'autre, soit amoureuse de moi. Et la jeune fille refuse. Et là, il recommence, troisième vœu, que je refasse trois autres vœux. Le premier, tatatitatata, le second, que la jeune fille soit vraiment amoureuse de moi. Et elle refuse. Et à partir de là, il redémolit tout. Et donc ça m'a vraiment... Et là, j'avais déjà aux alentours de 40 ans quand j'ai entendu cette histoire. Ça m'a vraiment marqué sur la potentialité, j'insiste, puisque Oulipo, voire de littérature potentielle, sur la potentialité à partir d'un conte souche, d'élargir, de faire autre chose, de ramifier, de créer d'autres types d'histoires, de prolonger l'histoire, de la modifier, d'en changer la fin, d'en changer des personnages, d'en changer des éléments, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à moi-même réécrire des contes.
Alors on va faire une fille et un garçon, une fille et un garçon. Qu'est-ce qu'il nous raconte son histoire, Fabien?
Alors mon histoire, en fait, c'est une histoire plus éditoriale. On en parle là, on n'entend rien plus rien.
Il faut bien, il faut parler comme ça, vas-y.
Alors, avant là, c'est pour mieux. Oui, c'est bien, c'est mieux. Donc, mon histoire, en fait, c'est plutôt un rapport à l'image, déjà. Et une envie de partager, c'est-à-dire que je suis arrivé avec une idée avec un âne de collection pour raconter des histoires comme on le fait à la base quand on est illustrateur. Pour moi, une image raconte une histoire. Et je me suis dit, autant voir ce qui se raconte comme histoire, j'ai mis le nez dans
s'agit de l'art vivant, par exemple, un conte qui est raconté sur scène, enfin, là, pour le coup, c'est Pierre qui pourra vous en parler. Mais là, il y a toute une mise en scène qui fait participer aussi d'autres choses. Et moi, j'avais envie d'être dans cette transversalité. Alors, de dire vraiment à partir de quand ça s'est mis en place, c'est difficile, parce que ça a été progressif. Gamine, j'ai essayé de toucher un petit peu, bien sûr, dès que j'ai commencé à écrire, à essayer de mettre moi-même en compte des choses qui passaient par la tête, alors avec les moyens maladroits d'un enfant, bien entendu, et puis ensuite par le dessin. Et j'ai la sensation que maintenant, c'est simplement, je suis arrivée un peu plus à maturité avec quelque chose qui, à l'origine, était déjà éclaté, mais déjà sur plusieurs arts. Mais en réalité, je crois que la chose que j'ai envie de transmettre, c'est avant tout, en dehors du texte et au-delà des images, un ensemble de codes, de symboles qui puissent quelque part parler à l'inconscient. Et c'est vrai que ces images, les images finalement, c'est quelque chose qui le permet facilement. La musique, par exemple, joue sur les émotions, mais l'image peut jouer sur des ressorts inconscients, parce qu'on n'a pas forcément, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous traverse. Bien sûr, c'est aussi dicté par des modes, mais je pense qu'au-delà de ça, on arrive à donner par le biais des images des choses qui ne sont pas forcément dans les textes. D'où le fait que quand on a la chance de pouvoir à la fois être l'auteur et l'illustrateur dans un livre, on peut jouer sur deux plans qui sont vraiment très différents.
Alors, j'ai un peu anticipé sur une question qui allait venir, mais ça n'est pas grave du tout. Pierre Dubois, le conte, une énorme partie de ton existence.
Oui, alors au départ, je sais pas, ça a d'abord été la nouvelle. J'ai commencé parce que, on en a parlé hier avec, c'était ma rencontre avec Seignol, qui avait à la fois des contes dans certains recueils, comme ses contes, enfin, comme son folklore de Provence, je trouvais des contes, et en même temps, c'est de la fantastique. Donc, j'ai d'abord plutôt écrit de la fantastique que des contes. Et les contes, je suis venu à cause de la radio. C'est lorsque j'ai commencé à faire du collectage pour des émissions de radio, j'avais une émission qui s'appelait La Hotte du Colporteur, et l'histoire pour les veillées. J'allais donc chez les anciens, je leur posais des questions, ils me racontaient des histoires. Et je ramenais tout ça à la réalisatrice qui mettait ça en boîte, enfin qui la mettait en onde, parce qu'il y avait des metteurs en onde à l'époque. Et j'écrivais dans des petits contes. Je me suis mis à écrire des petits contes entre les contes des autres. Et petit à petit, j'ai découvert vraiment que j'aimais ça. J'aimais raconter, même si c'était détourné un petit peu, même si c'était plus littéraire, même si je m'amusais, même si ça devenait un peu une forme de poésie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des contes.
Quand on a une collection de contes qu'on lance, Fabien Fernandez, comment fait-on pour choisir à la fois l'auteur et à la fois le conte lui-même? Ou est-ce que les auteurs présentent déjà leur conte en disant voilà, je te présente un livre? Voilà, comment ça se passe, la constitution de cette collection?
Les auteurs ne présentent rien en fait. J'ai pris que des auteurs qui sont morts, c'est plus facile à gérer comme ça. Non, en fait, il se trouve que quand on lance une collection, on arrive avec plein d'idées, des envies d'histoire, des envies de partage, des envies de faire découvrir des textes, mais aussi des images. Et après, on se confronte à une autre réalité qui est une réalité plus commerciale. Donc, d'une manière plus pragmatique, on met un compte, l'idée de la création de cette collection est de mettre un compte en avant et derrière mettre des textes qui sont moins connus et articuler autour de ça, en fait. Ça s'est constitué tout seul comme à chaque fois un livre, une thématique.
Et comment s'opère le choix, si choix il y a, ou en tout cas le regard sur la réécriture du conte? Parce que c'est l'apéro qui...
Il n'y a pas vraiment de réécriture en fait. Je remercie Saint-Gallica qui m'aide à avoir accès à un texte original. Et alors, il y a quelques petites retouches, parce qu'en effet, comme on parlait de la langue tout à l'heure, il y a des mots qui sont plus compréhensibles par le commun des mortels maintenant. Donc, on a juste un ou deux mots de temps en temps
sa mère. Donc la mauvaise a eu un sort très cruel puisqu'elle va mourir au coin d'un bois, de faim, de froid, de soif, etc. Alors celle-là, je l'ai ressuscitée dans une nouvelle, puisque ce que j'écris, c'est des nouvelles sur les contes. Dans une des nouvelles, je l'ai ressuscitée. Dans une autre nouvelle, la bonne, je lui ai fait sa fête parce que je l'ai fait mettre, elle épouse un prince charmant, très bien. Je l'ai fait se retrouver à la cour. On suppose que c'est Louis XIV, vu le style, mais ça pourrait être n'importe quel roi. Et il y a une belle-mère qui, elle, est une vraie princesse byzantine avec des vrais bijoux. Merci. Et pas des capuchons qui sortent tout brut de la gorge. Donc voilà, elle est un peu haïe au nid. C'est vraiment la bergère au milieu de la cour. Hein. C'est la bergère qui épouse le prince. Donc voilà, je m'amuse comme ça à détourner, à essayer de voir ce que ça donne. Je m'amuse aussi, si je mets, alors cette fois, une contrainte de texte, une contrainte littéraire, si j'enlève la voyelle E, par exemple, et que je raconte quasiment littéralement l'histoire des fées de Perrault, c'est là-dedans, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner que je suis obligée d'aller prendre du vocabulaire un peu compliqué, donc au lieu de dire la mère, je dirais la nana. Au lieu de la fée, je dirais le marabout, etc. Donc, ça donne quelque chose qui a un rythme très différent, tout en gardant la ponctuation et le phrasé de Perrault. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que la musicalité de la phrase m'intéresse particulièrement, d'où le fait d'ailleurs que j'ai travaillé après avec des compositeurs. Donc, c'est une façon de détourner, mais pour faire jaillir autre chose. Ça n'enlève rien au texte souche, ce qu'on appelle nous le texte souche, le texte de base qui reste le petit chaperon rouge de Perrault, il ne faut pas y toucher une virgule, hein. Il faut faire autre chose. Sur le petit chaperon rouge, je n'ai pas encore travaillé parce que beaucoup d'amis auteurs ont travaillé dessus, Gilbert Lascaux, Georges Kolepka, Pierre Léon, il y a des petits chaperons rouges libertins, il y a des petits chaperons rouges libertaires, il y a des petits chaperons rouges, etc. Donc j'essaye de prendre des contes moins connus quand même, les fées de Perrault, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas ce conte-là. Il y en a d'autres archi connus comme Cendrillon, Blanche-Neige, que je me suis amusée aussi à détourner. Cendrillon, je l'ai mise à l'hôpital. Donc, je l'ai fait passer à travers les couloirs et les services de différents... je ne sais pas comment ça s'appelle, l'étage de l'hôpital, d'un hôpital. Donc voilà, c'est une façon aussi de répondre à un autre auteur. Je réponds à Perrault, je réponds à Grimm. D'ailleurs, les frères Grimm, je les ai mis en personnage, Perrault lui-même aussi. Je réponds à Saint-Exupéry, parce que pour moi, vraiment, Le Petit Prince est un conte, et c'est le résumé de toute son œuvre et de toute sa vie, quelque part. Et j'essaye de dialoguer avec ces auteurs morts depuis longtemps, qui ne peuvent pas me répondre, hélas, mais j'imagine qu'ils seraient contents s'ils savaient que j'ai parlé d'eux. Alors, ces contes qui nous viennent de loin, hier, on parlait avec Charlotte Bousquet de Podane, par exemple, qui est un conte dont il est déjà fait état au Moyen-Âge, de façon très importante, et un conte très célèbre, qui continue aujourd'hui à nous parler, qui continue aujourd'hui à vous intéresser, que vous avez envie, chacun, de diverses façons à transmettre. Comment vous expliquez ça, si vous l'expliquez? Vous avez commencé un petit peu, Christelle, sur le...
Je n'ai pas forcément une réponse à ça, c'est subjectif. J'ai la sensation, en fait, qu'il y a effectivement des ressorts qui sont du domaine de... Ça a été longtemps analysé par les psychiatres, donc là, je dis rien de nouveau, mais des ressorts qui sont de l'ordre du, effectivement, de l'inconscient, mais donc qui peuvent traverser le temps. Par contre, ce qui va poser problème, à mon avis, dans le cadre d'une réécriture, c'est justement la perte du sens de certains symboles, et aussi d'une culture, de la culture qui participe à les faire vivre. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si ça va vraiment...
s'adapte ça, avec le quotidien, mais c'est toujours le fond est toujours là, notre esprit reptilien, elles sont toujours là. Par contre, moi, c'est un peu différent dans la mesure où les contes que j'écris, je prends simplement le titre, pratiquement la trame, et j'en fais un récit policier. Hein, si je prends Blanche-Neige, ça n'a plus rien à voir avec le conte, je m'amuse à raconter une histoire de jeunes filles qui sont assassinées avec une pomme d'amour dans la bouche. Elles sont empoisonnées par une pomme d'amour dans la bouche. Et on a barbouillé sur leur visage, on leur a fait une tête de Blanche-Neige. On les a fait, on les a grimés en Blanche-Neige avec une lèvre très rouge et le teint très pâle. Et à côté d'elle, on met un homme jardin. Et là, il y a un détective des faits qui s'appelle Charlotte Marmaduke Pursley, qui est la honte de Scotland, et qui est une espèce de dandy entre Peter Cushing et Oscar Wilde, et qui lui, par contre, a un esprit baroque, un esprit qui se laisse mener par le par une fatum, les faits normal à découvrir la vérité. Et en fait, je vais pas vous raconter ça n'a vraiment rien à voir. Je m'amuse avec Peter Pan, par exemple, je m'amuse avec tous ces personnages-là, pour leur redonner, par exemple, Peter Pan, c'est Jack l'Éventreur, hein, et c'est logique. Il est amoureux de Wendy, va vivre un moment avec lui, et puis, quand il va lui dire, regarde la jolie cruche à terre ou de comme ça, elle va dire, bah non, c'est une bouteille de minéral, elle a perdu l'enfance, elle a perdu, et il ne comprend pas, ça, surtout qu'elle rentre chez elle, et puis après la fille de Wendy lui fait le même coup.
On parle vraiment dedans, parce que je ne sais pas si on parle dedans, l'enfant qu'on voit là-bas. Et j'ai répondu, du coup, il faut pas en parler.
La fille de Wendy fait la même chose, et il ne comprend toujours pas pourquoi les filles, à un moment donné, veulent grandir. Et donc, lorsqu'il va la voir de Kensington Garden, où il habite, et où habite monsieur et madame Darling, il passe immanquablement par Whitechapel. Et là, les seules filles qu'on voit à ce temps-là, dans la nuit, c'est des prostituées. Et il va chercher, comme les enfants dans les poupées ou dans les nounours, qu'est-ce qui fait que dans le ventre des femmes, peut-être, il y a un secret qui les pousse à un moment donné à traiter des petites filles jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été pris, parce qu'en fait, il y a que le chef qui l'accompagne. Et c'est un expert de la dague, il coupe très vite, il fait de l'urée, il vole, donc il est rapide. Et donc, la motivation de ça, c'est ça, c'est trouver le... Et alors, pourquoi mon détective poursuit, se rend compte que c'est Peter Pan, c'est que sur les cadavres, il manque toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le baiser que les mamans, les femmes, donnent à Peter Pan et même pas à leur mari. Et donc, Poursuit se rend compte que ce baiser manque toujours sur les cadavres des prostituées. Il y a toujours un petit peu de poudre de fée, donc c'est Peter Pan. Donc oui, ça n'a plus rien à voir avec les contes de... Je brode, je tricote autour de ces thèmes.
Oui, mais il y a, même quand vous détournez, même quand vous adaptez, il y a quand même... il reste cette volonté de prendre des personnages connus de la culture populaire, de la culture enfantine. Pourquoi ?
Et parce que c'est le bien, le mal, il y a le dominant de crochet, il y a l'ombre, la lumière, il y a tous ces mythes qui sont là. Donc je m'amuse avec eux. Mais c'est comme Guignol, si on prend les personnages, on travaille avec eux, ils sont là, ils sont en nous, et ils sont autour de nous. C'est un petit peu comme les réflexes qu'on a encore, ou certaines traditions qu'on a encore, comme le faire ou du bruit à la nuit du nouvel an, où on chasse les mauvais esprits. On ne fait pas de bête maintenant, place de la Bastille ou de la Concorde. Néanmoins, on fait ces mêmes gestes qui sont en nous. et c'est un peu ça, c'est l'histoire que je décortique, que je remonte à ma façon, malgré tout, comme Star Wars est encore une énième mouture du mythe arthurien, hein, c'est plus Excalibur, c'est un laser d'épée, et il y a toujours Dark Vador, il y a le Yoda qui est Merlin quelque part, il y a toujours ces personnages, toujours les mêmes, qui reviennent toujours.
De toute façon, pour pouvoir détourner, adapter, réécrire des contes, il faut au départ que le conte soit connu. On est dans la littérature, on se contenterait le jour où l'enfant, ou le jour où la personne ne sait plus qui est Blanche-Neige, ton histoire tombe à l'eau. Et heureusement, il y a toujours des collections qui reprennent ces contes-là dans leur jeu original et qui permettent après aux auteurs, aux dessinateurs qui souhaitent jouer avec de procéder à ce jeu. Nous allons passer, je suis désolée vraiment parce que les micros semblent un petit peu capricieux et puis il y a du bruit à côté qui n'était a priori pas prévu. Non. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos quatre invités autour du conte ou de sa réécriture? Oui? Oui? Alors, est-ce que vous avez eu l'idée, l'envie, oui, d'écrire un conte?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'est même... je crois que c'est le conte, ce qu'il y a de bien, justement, c'est quand tu commences à apprendre à écrire, à écrire des nouvelles, à écrire des contes, le conte est plus facile, enfin, facile. Que ça te, tout de suite, tu as justement tous ces mythes-là qui arrivent.
Il y a un schéma narratif très particulier.
C'est déjà là. Déjà, même quand tu dis il était une fois, c'est un abracadabra. C'est déjà une formule magique. Il franchit le pont, quand tu le franchis le pont, il faut entrer à sa rencontre, ou quand Alice passe le miroir, c'est un début, tout de suite. Tu commences et puis ça vient. On a l'impression que c'est une phrase magique. C'est quelque chose qui te souffle derrière et qui te rappelle des choses que tu as entendues, que tu connais. Et le conte, pour moi, c'est l'idéal quand on commence à écrire. Et même quand on se raconte soi, il était une fois toi. Et puis, c'est un petit peu comme ça que je conçois enfin cette manière d'écrire le conte, c'est instinctivement tu te rappelles des choses.
Le conte a deux caractéristiques historiques, d'une part, a priori, bien que ce ne soit pas toujours le cas, il est court, et d'autre part, il a un processus d'ouverture et de clôture, puisque en direction des enfants, je parle pas du conte littéraire, c'est autre chose. Et c'est « Il était une fois, dans un temps, dans un pays indéterminé, et le conte est fini », s'il y avait toujours soit bon, une moralité pour Perrault, mais Perrault a repiqué tous les contes populaires, une moralité, mais dans le vrai Chaperon Rouge, dans le vrai, dans les variantes, c'est une petite mélodie qui, à la fin, dit que mon conte est fini. C'est-à-dire, ce principe, on rentre dans une histoire, mais ce n'est qu'une histoire, n'ayez pas peur, et on sort de l'histoire. Voilà, principe d'ouverture, principe de clôture. Or, dans un temps déterminé, aujourd'hui, pour répondre à cette question, évidemment, toute la fantaisie, une grande partie de la littérature de l'imaginaire a pris le relais du conte, avec aussi ce manichéisme du conte, le bon, le méchant, la fin généralement satisfaisante, et dans des temps indéterminés, dans des pays indéterminés, avec un processus d'ouverture, dit était une fois, même si les termes ne sont pas exactement cela, et de clôture. Donc, oui, le conte aujourd'hui, il est présent plus qu'il ne l'a jamais été, mais toujours sur ce même schéma narratif. Est-ce qu'il y a. Oui, tu peux répondre à ce sujet
pour ajouter un petit peu, parce qu'on parle de fantasy et de conte. Parallèlement, je travaille aussi dans le milieu dit de la jeunesse, qui est très connexe,
Alors la question, c'est la question de Charlotte Bousquet est la suivante. Nous avons parlé, nos invités ont travaillé beaucoup sur le conte, on va dire, occidental, d'une culture bien particulière. Est-ce que les contes chinois, les contes des Inuits et d'autres ne sont pas ou ne seraient pas aussi une ouverture aux autres cultures? Voilà. Oui, et c'est énormément fait aussi. Si elle existe,
c'est plus difficile de partir de contes d'autres pays. Moi, je connais très bien les contes russes. Personne ne les connaît en France, donc très peu de gens. Donc, par exemple, dans les Sept Fins de Blanche-Neige, j'ai fait un pastiche de Pouchkine, lui-même ayant écrit l'histoire de la princesse morte et des sept paladins, où il a transformé les nains en grands guerriers. Les gens, en général, la lisent au premier degré. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le conte, quel que soit le pays d'origine, on ne peut pas voir en quoi c'est détourné, ou transformé, ou retricoté, etc. Donc, c'est pour ça que c'est relativement plus facile de partir d'un conte occidental en limitant l'Occident à l'Europe telle qu'on la voit des mains. Je caricature, mais quelque part, si on prend des contes chinois ou si on prend des contes africains, beaucoup de gens ne connaissent pas le contexte. Pour les Indiens, c'est encore pire. Donc, ce sont des contes absolument magnifiques et la collection est extraordinaire. Mais pour nous, c'est relativement, non pas difficile d'écrire dessus, mais de toucher un public, parce qu'il faut, ça implique que ce public ait déjà lu le conte d'origine. Hein. Donc, du coup, ça limite beaucoup. Et c'est vrai aussi que certains contes, tu l'as dit, Marie-Charlotte, comme Blanche-Neige se retrouve au Mexique, se retrouve en Amérique du Nord, se retrouve en Inde.
Cendrillon en Chine, la plus ancienne version qu'on a est en Chine. Et donc on a vraiment, il y a vraiment des archétypes qu'on retrouve vraiment partout. Ensuite, il est vrai que c'est compliqué parce que le conte n'a pas la même fonction dans tous les pays. Les contes occidentaux sont de loin les plus moches pour moi, n'ont rien à voir avec les contes de sagesse, par exemple, d'Orient, qui sont des contes magnifiques, ou les contes de la Méditerranée, dont nous avons hérité dans nos contes anciens, puisqu'on retrouve les premières versions dans les textes grecs, etc. La Belle et la Bête racontée dans la Culée, dans l'Endor, enfin voilà, je veux dire que ce qui nous arrive là nous arrive de toute façon déjà édulcoré, très christianisé, mais au départ, ce sont des contes d'Orient, ce sont des contes de la Méditerranée, ce sont des contes du Nord, voilà. Mais il y a effectivement d'autres traditions qui sont mais aussi dans où le conte n'a pas la même fonction. Et là, comme il était question dans cette table ronde de transmission, donc de culture collective, donc de connaissances collectives, c'est vrai que c'est plus facile parce que ce qu'on raconte, ce que les grands-parents, on va dire, ou les parents racontent aux enfants, c'est ce qu'on leur a raconté eux-mêmes. Et c'est comme les comptines, et c'est comme les petites les souris vertes et autres. C'est-à-dire, tout ça se transmet de génération en génération. Sans qu'on sache effectivement, ou alors en perdant le sens, comme les phrases magiques et les abracadabras.
siècle, au XVIIe siècle. Donc, je veux dire, déjà, rien que dans les contes occidentaux, entre guillemets, il y a énormément de choses. Voilà, c'est pas un parti pris de se limiter aux contes actuels qui sont connus en France. C'est simplement de se voir des autres, les gens n'ayant pas les références ne comprennent pas de quoi on parle. Donc, c'est mieux. Enfin, ça touche moins de public, c'est pas plus difficile à écrire, la question n'est pas là. Encore que, c'est pareil, si on parle d'un conte chinois, ben, il faudrait quand même connaître des mots décrivant certaines situations, il faudra connaître un peu l'histoire. Enfin, voilà, même pour nous, ça demande toute une réflexion derrière. Moi, je peux l'avoir pour les contes russes, je ne peux pas l'avoir pour les Chinois, j'en connais pas assez sur la Chine. Et pareil pour d'autres cultures. Donc, et en même temps, si du coup on écrit un texte un peu trop élaboré où il y aura des épées qui s'appelleront, je ne sais pas, des Scrabasaks, si c'est un conte médiéval, ou qui s'appelleront autrement, si on a trop de vocabulaire, entre guillemets, compliqué, le lecteur ne suit plus. Or, l'idée du conte, c'est quand même que le maximum de gens puissent le lire, même si on fait le conte contemporain.
Il y a le problème de Saint-Paul aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Japon. J'ai trouvé au Japon des contes japonais, mais en fait, on est dans un contexte, on est dans un contexte culturel indo-européen. Donc, tout nous arrive historiquement via l'Inde. Donc, on retrouve des contes qui sont nos contes traditionnels. Voilà. Après, il y a un problème de symbole. C'est-à-dire que le renard n'a pas la même symbolique. Nous, on a un renard qui est un renard rusé. Ils ont un renard qui est un dieu. Donc, nous, on a une sorcellerie qui est rattachée au diable depuis la Renaissance. Eux, ils ont une sorcellerie qui est détachée du diable. Donc, tout ça, moi, je devais, pour mon éditeur japonais, adapter du conte français. Il y avait toute une série. J'ai eu un mal fou parce que rien ne fonctionne. Et ceux qui fonctionnent, ils les ont déjà. Ils les ont déjà comme des contes japonais. Voilà. Pour une autre question là-bas. Alors, la question que vous pose mademoiselle, est-ce que avant de travailler sur un conte, tu te renseignes sur les symboles, tu procèdes par exemple pour procéder à une analyse du conte?
Là, en l'occurrence, oui. Quand c'est le cas, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un travail vraiment d'ingestion, de digestion. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'emparer du fond symbolique de l'histoire pour pouvoir la réadapter finalement à public contemporain. Parce que ce qui se passe en fait quand on parlait tout à l'heure d'archétypes et de problèmes éventuellement biatifs dans les transmissions, ça va être ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pris la structure, on a perdu de vue le sens. Et à mon avis, un travail de réinterprétation et transformation du conte qui est réussi, c'est un conte dans lequel on prend les archétypes, quitte à détourner la structure. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable effectivement de s'emparer des symboles avant de pouvoir refaire les transmissions.
Au niveau de l'illustration, est-ce que c'est la même chose? Puisque quand il va falloir illustrer un conte, forcément, c'est une réécriture. Une réécriture en dessin du conte, est-ce que du coup la fonction symbolique est agissante là-dessus et prise en compte?
Alors, il y a évidemment des codes visuels, des codes incontournables, mais je dirais presque à la limite qu'il faut en jouer pour raconter presque une autre histoire avec des images. Si on prend Poudan, qui est aussi Poudan,
Yeah.
c'était simple, je prendrais la belle et la bête et je pleurerais tout seul sur mon île déserte pendant ce qui me reste de temps de vie.
Même question, un seul conte à emporter sur une île déserte, Fabien Fernandez, ce serait lequel?
Celui qu'on peut écrire sur place à la limite, parce qu'il y en a trop en fait.
Donc un conte à inventer.
Ouais, je crois.
Tous les contes dans sa tête. Christelle,
bon, ma réponse n'est pas du tout rationnelle. Je pourrais certainement vous faire une autre réponse demain. Aujourd'hui, ce serait Christian en personne. Je pense que côté extrêmement romantique.
Dans une liste, peut-être d'en rencontrer. Chantal Robillard,
alors moi, je prendrai Le Petit Prince, je le relirai, je le ferai sortir du livre, apparaître, se matérialiser. Je partirai avec lui en prenant le premier vol d'oiseau qui arrive et nous monterions dans son astéroïde.
Voilà. Écoutez, voilà, nous allons terminer sur cette île. Merci à vous quatre. Merci à vous.